RFI 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. Yoon Suk-yeol est sorti de prison. Le président sud-coréen reste toujours poursuivi suite au chaos qu'il a provoqué en décembre dernier en proclamant la loi martiale, mais il a été libéré pour raison de procédure. Le Hamas évoque des signaux positifs. Les discussions continuent au Caire, en Égypte, avec les médiateurs égyptiens et qataris pour entamer la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Et puis en cette journée internationale des droits des femmes, des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde, Paris, Madrid, Buenos Aires. On va s'intéresser à l'hôpital de Montreuil en région parisienne, hôpital qui répare l'excision, une des violences faites aux femmes. Ce 8 mars a été choisi pour que ce parcours de réparation soit intégralement pris en charge par le système de santé français. Yoon Suk-yeol remise en liberté. Le président sud-coréen est sorti de prison ce samedi après l'annulation par le tribunal de son arrestation pour des raisons de procédure. Mais le chef de l'État fait toujours l'objet d'une enquête et il risque d'être démis de ses fonctions. Dans ce cas, une présidentielle sera organisée sous les 60 jours. Yoon Suk-yeol avait plongé la Corée du Sud dans le chaos en décembre dernier en proclamant la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement pour le faire taire. À Séoul, la correspondance de Camille Ruiz.
52 jours derrière les barreaux. Le président sud-coréen est sorti de prison il y a quelques heures seulement. C'est un véritable coup de tonnerre dans cette affaire qui a fait basculer le pays dans une crise politique sans précédent depuis 40 ans. Après son coup de force du 3 décembre dernier, le président a été destitué par l'Assemblée nationale. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, puis la police et les enquêteurs ont tenté une première fois d'arrêter le président, en vain. La seconde tentative est la bonne, mais Yoon Suk-yeol refuse de coopérer. Il est alors inculpé pour rébellion, sa période de détention est prolongée. Seulement voilà, d'après les avocats du président, cette inculpation est intervenue plusieurs heures après l'expiration de la période initiale de détention. La Cour centrale de Séoul leur a donc donné raison hier et les procureurs n'ont pas utilisé leur droit de faire appel. Une décision vivement critiquée par l'opposition. Celle-ci craint en effet qu'il en profite pour, je cite, « détruire des preuves et perturber les enquêtes en cours ». De son côté, Yoon Suk-yeol a regagné son domicile sous les encouragements de ses partisans. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Dans l'ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 532 civils alaouites ont été tués depuis jeudi par les forces de sécurité et leurs alliés. Des forces déployées pour combattre des fidèles du président déchu Bachar al-Assad. Les autorités syriennes affirment œuvrer à ramener l'ordre dans la région. Ce samedi, Paris a condamné avec la plus grande fermeté, je cite, les exactions qui ont frappé des civils sur une base confessionnelle et des prisonniers et a appelé les autorités syriennes intérimaires à s'assurer que des enquêtes indépendantes soient menées. Le Hamas évoque des signaux positifs pour le début des négociations de la deuxième phase de la trêve avec Israël dans la bande de Gaza. Les discussions continuent au Caire, en Égypte, avec les médiateurs égyptiens et qataris. La première phase du cessez-le-feu s'est terminée le 1er mars et la trêve reste fragile en raison de désaccords entre le mouvement islamiste palestinien et Israël sur la suite du processus. Pendant ce temps, en Israël, plus de 50 ex-otages du Hamas à Gaza et des familles de captifs ont appelé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à un accord de cessez-le-feu complet avec le Hamas pour permettre la libération de tous les otages détenus. Un appel qui intervient alors que le porte-parole de l'armée israélienne, une figure populaire auprès du public, a été évincé. Une décision qualifiée de politique par l'opposition en Israël. À Jérusalem, Michel Paul.
Depuis le début de la guerre, il figurait presque tous les soirs dans les journaux télévisés pour annoncer les nouvelles des différents fronts, libération d'otages mais aussi la mort de soldats et des situations plus complexes au cours desquelles des otages israéliens ont été tués par des militaires israéliens. Dans ce qui est considéré comme un véritable limogeage, le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, va mettre fin dans les toutes prochaines semaines à ses fonctions et après plus de 30 ans de service, il va quitter l'armée. Il n'a pas été inclus dans la série de promotions qui ont été annoncées par le commandement militaire. Très apprécié par le public israélien, Hagari l'était beaucoup moins par l'échelon politique, en particulier par le ministre de la Défense, Israël Katz, avec qui il s'était heurté à plusieurs reprises, notamment lorsque le porte-parole avait critiqué des décisions prises par la coalition gouvernementale. L'éviction de Daniel Hagari est critiquée par l'opposition israélienne, qui estime qu'elle est le résultat de pression politique. Plusieurs commentateurs considèrent cette décision comme le premier faux pas du nouveau chef d'état-major, le général Eyal Zamir. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
De son côté, l'Organisation de la coopération islamique a formellement adopté aujourd'hui le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, un plan soutenu également par les pays européens, et qui est une réponse au projet de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en expulser les habitants. La Russie revendique la reprise de 3 villages dans la région de Koursk, un nouveau revers pour l'Ukraine, alors que la perspective de pourparlers semble se renforcer, car Kiev espère utiliser comme monnaie d'échange les quelques centaines de kilomètres carrés conquis dans cette région russe, mais plus de 2/3 des territoires ont déjà été récupérés par Moscou. Nouveau rebondissement dans la crise bosniaque. Le tribunal constitutionnel vient d'annuler les lois promulguées par Milorad Dodic, le président de l'entité serbe de Bosnie. Dans ce qui est qualifié de tentative de sécession de l'entité serbe de Bosnie, Dodic avait interdit à la police et à la justice bosniaque d'agir sur le territoire qu'il contrôle. Depuis la fin de la guerre de Bosnie en 1995, le pays est divisé en 2 entités, la République serbe et la Fédération croato-bosniaque. La décision du président de l'entité serbe pourrait représenter une menace pour l'intégrité du pays. Laurent Rouy.
Depuis hier, les Européens de la mission EUFOR se déploient pour assurer la stabilité de la Bosnie. En cause, le président des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, un proche de Poutine. Condamné par le tribunal constitutionnel, il tente d'interdire la police et la justice fédérale dans son entité. Hier, le tribunal a annulé sa décision. Dodik a réagi dans les médias.
Nous allons appliquer nos lois, car le tribunal constitutionnel n'est pas légal. Ils ne respectent pas la constitution, ce sont des idioties. Si j'enfreins une loi, je suis prêt à répondre de mes actes, mais comme je n'ai rien fait, je ne vais pas respecter les décisions de ce procureur.
En Bosnie, le traumatisme de la guerre des années 1990 est palpable. Mais le ministre de l'Intérieur, Ramo Isak, se veut rassurant. Il affirme que Dodik est en train de perdre ses soutiens.
Toutes les décisions de ce cadavre politique, de ce guignol, sont tombées à l'eau. Il appartient maintenant au passé. Les habitants de l'entité serbe sont contre ces décisions. Cette fois, il ne réussira pas.
Dodik a appelé les Serbes à quitter la police fédérale, sans résultat. Réclamant la sécession de la Republika Srpska et la disparition de la Bosnie depuis 18 ans, Dodik risque cette fois la prison. Il pousse sa logique séparatiste aussi loin que possible. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Allemagne, on se dirige vers un nouveau gouvernement de coalition. Les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz, arrivé en tête des dernières élections, ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord de principe avec les sociaux-démocrates du SPD, le centre-gauche. La semaine prochaine, ce sont des négociations détaillées qui doivent commencer. Ce samedi, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars. Des manifestations ont lieu un peu partout dans le monde. À Madrid, plusieurs milliers de personnes ont ainsi manifesté sous une pluie battante pour réclamer une égalité réelle, pas de pacotille. Plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, 120 000 à Paris et 250 000 en région, selon le collectif Grève Féministe. La préfecture de police parle, elle, de 48 000 manifestants à Paris. Niveau mot d'ordre, il y avait de quoi faire entre les inégalités salariales persistantes, les féminicides et la montée des discours masculinistes. Parmi les violences faites aux femmes, l'excision. Et c'est à partir de ce 8 mars, date symbolique s'il en est, que la réparation de l'excision à l'hôpital de Montreuil, en région parisienne, sera intégralement prise en charge par le système de santé français. Reportage Sylvie Coffi.
Ce sont plus de 200 femmes qui suivent ce parcours de soins chaque année. La moitié se fait opérer. Sarah Abramovic, chirurgienne gynécologue, répare les femmes victimes d'excision. Pour elle, la reconstruction mobilise différents acteurs de la santé.
C'est une avancée énorme. On ne peut pas réparer que chirurgicalement. C'est-à-dire que pour le moment, c'est la chirurgie qui est prise en charge et pas les consultations autour, c'est-à-dire de psychologues, de sexologues, d'assistantes sociales, les groupes de parole. L'idée du parcours de soins multidisciplinaires, c'est de réparer les femmes à la fois d'un point de vue chirurgical et au niveau anatomique et à la fois d'un point de vue sexologique et psychologique.
Certaines de ces femmes ont subi des traumatismes.
Les patientes qui arrivent en parcours de soins, c'est souvent des femmes qui malheureusement ont vécu beaucoup de violences sexuelles, qui ont des stress post-traumatiques et donc réparer le corps uniquement ne sert pas à les réparer entièrement.
Encore en phase expérimentale, il faudra attendre 3 ans pour que ce dispositif se généralise dans toute la France.
Un reportage signé Sylvie Coffi. Le dernier concurrent du Vendée Globe a franchi la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne en Vendée. Le Belge Denis Weinberg, le seul participant ayant une équipe 100% amateur, aura passé 117 jours en mer, en solitaire, pour son tour du monde, marqué par des avaries. Mais il est bien arrivé. Malheureusement, il ne sera pas classé, car la date limite, c'était hier. RFI, 21h10 à Paris.